Alors, donc, on est période de Toussaint. Qui dit Toussaint, en général, bon, il y a les vacances, mais il y a aussi commémoration des morts, et beaucoup de gens vont dans les cimetières. Hein, on va orner les tombes, les nettoyer. On veut montrer qu'on n'oublie pas ceux qui sont partis. C'est une bonne chose, c'est vrai. Hein, et je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup les cimetières. Moi, j'ai habité longtemps près du Père Lachaise. On a toujours un pied de terre au Père Lachaise. Et je suis allé souvent dans le Père Lachaise. Et c'est vrai que, eh bien, c'est un lieu agréable, en fait, parce que c'est un jardin. Et beaucoup de parents viennent se promener avec leur landau, et c'est même c'est le contraste. C'est la vie qui vient de naître au milieu de ceux qui sont partis, en fait. Bon. Et non, là, vous avez même vu du Père Lachaise que je vous ai montré, là. Et donc, et c'est vrai que ce que j'aime bien, moi, je suis toujours étonné par les épitaphes. Vous savez, ce qui est gravé sur les pierres tombales, parce qu'en fait, ça nous interpelle, des siècles après parfois, et on a une idée de ce qu'ont vécu les gens, du témoignage qui a été laissé, c'est gravé dans la pierre. Et au Père Lachaise, il y a beaucoup de stars, vous avez même beaucoup de vedettes. Et dernièrement, et beaucoup encore sont partis, beaucoup, et les médias se font effectivement l'écho des honneurs qu'on rend à ceux qui sont partis, c'est normal. Et je dirais qu'ils le méritent. Mais moi, je me pose sur la question, quel accueil ces personnes ont-elles reçu là-haut en arrivant dans l'éternité? Et c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez effectivement hein, qu'il soit gravé sur votre tombe, ou plus exactement, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu puisse dire de vous, voilà, hein, et qu'il soit laissé comme un message aux postérités qui viennent après, hein, si un jour on vient sur votre tombe. Bon. Et moi, personnellement, j'ai pensé à question, réfléchi, puis j'aimerais bien, j'ai mis un exemple, l'épitaphe, hein, j'aimerais que Dieu puisse me dire, voilà, c'est montrer un serviteur fidèle dans les petites choses, et il a rejoint le maître pour s'en voir confier les plus grandes. Ouais. Réalisons que notre passage sur Terre, c'est assez court, il y a un certain nombre d'années, mais on ne peut réussir son objectif, finalement, que si on se met au service de Dieu. Important. Donc j'ai à cœur ce matin de vous parler de notre mission, des moyens de la réaliser, une façon de remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Et le titre du message, donc, c'est « Mission extraordinaire pour des gens tout à fait ordinaires ». Alors, je vous invite déjà à lire un passage. Hein. On va prier ensuite, demander au Saint-Esprit de nous parler au travers de ce passage qu'on va lire. Si je trouve en Marc, au chapitre 6, on va lire des versets 7 à 13. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur des esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussures, des sandales, et de chausser des sandales, pardon, et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu, et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Seigneur, nous te prions ce matin pour qu'à travers ce passage et les autres textes que nous allons lire en référence à cette mission, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse nous parler au cœur de chacun, Seigneur, que nous puissions être interpellés, non pas par ce que moi je dis en tant qu'homme, mais Seigneur, parce que toi tu dis au cœur de chacun, par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu as un projet pour chacun, et que cela puisse nous aider ce matin encore, eh bien, à rentrer dans ce projet. Que ta parole soit pour nous un encouragement, qu'elle soit pour nous, Seigneur, un stimulant, qu'elle nous fortifie. C'est ce que nous demandons au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus envoie ses 12 disciples en mission, et quand on y réfléchit, en fait, il ne s'agit pas il s'agit d'annoncer le royaume de Dieu, bien sûr. Hein, il s'agit de présenter, d'évangéliser, et surtout donc, de chasser les mauvais esprits et de guérir les malades. Hein. Et Luc, et pour ça, il donne autorité sur les esprits mauvais. Luc fait exactement le même récit, à quelques mots près. Et, tandis que si on regarde Matthieu 10, la mission est assortie de beaucoup de directives de la part de Jésus. Il prévient ses disciples, il les envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc il dit attention, méfiez-vous. Il leur dit vous aurez des gros problèmes, on va vous traîner devant les tribunaux. Il leur dit vous allez être persécutés, même au sein de vos familles, on va vous persécuter, le monde vous haïra à cause de moi. Il les encourage à tenir bon, à craindre personne. Il leur dit mon Père Céleste prend soin des petits moineaux, il va prendre soin de vous, et pas d'un cheveu de votre tête ne tombe sans qu'il soit pris en compte. Donc, vous dire, c'est déjà une mission, il y a des risques. Bon. Ouais. Et donc, ce n'est pas simplement du porte-à-porte, ce n'est pas comme en touriste, ce n'est pas simplement une promenade de santé. On va aller pour déloger l'ennemi des lieux qu'il occupe et où il n'a pas à être, en fait. Et c'est ce qu'ont fait les disciples. Et donc, on a lu au verset 12. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, notez ce mot repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils loignaient d'huile beaucoup de malades, ils les guérissaient, notez cette onction d'huile aussi. Bon. Et après les 12, Jésus va envoyer après 72 autres disciples en mission. Il va les envoyer deux par deux aussi, pour le précéder dans l'endroit où il devait se rendre, et il leur donne l'objectif, là encore, vous apportez la paix, vous annoncez le royaume de Dieu est proche. Et Luc nous fait le récit du retour des 72 de leur mission, on va le lire ensemble, c'est en Luc 10, verset 17 à 20, on va dire, Luc 10. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà ce qui est important pour Jésus, c'est que nos noms soient écrits dans les cieux, c'est-à-dire que nous sommes sauvés, que nous sommes appelés à partager la gloire éternelle dans le ciel. Et vous savez que Jésus va parler un jour du jugement. Certains vont lui dire, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, n'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri des malades? Et Jésus va leur dire, retirez-vous loin de moi, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que vous avez utilisé l'autorité qui était attachée à mon nom, j'ai honoré cette autorité, mais vous n'êtes pas rentré dans cette relation personnelle avec moi, donc je ne vous connais pas. Donc c'est important. Donc la mission, en fait, ça va être d'amener les gens à rentrer en relation personnelle avec Jésus pour qu'ils le connaissent. On est d'accord. Et Jésus va étendre la mission ensuite à ceux qui se réclament de lui comme disciples. Et avant de les quitter, il va leur dire, donc, c'est une mission, on l'appelle la commission parce qu'elle s'adresse à tout le monde, comme ici, on l'appelle même la grande commission. Et là, on va la lire pas dans Marc, puisqu'on on a lu Marc, on va lire la fin de Marc, on peut la lire en Matthieu aussi, mais enfin, on va lire en Marc, 16, 15 à 18. Il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, c'est un ordre pour les disciples. Bon. Qui sont les disciples? Parce qu'au-delà de cet envoi de Jésus, en fait, chacun de nous, si nous sommes nés nouveaux, si nous pouvons nous dire enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des disciples, c'est vrai. À être non seulement disciples, mais ambassadeurs de Christ, à être des représentants de son royaume, et, comme il est écrit donc, dans 1 Corinthiens 3:19, des collaborateurs de Dieu. Dieu désire nous associer à son œuvre. Donc c'est un sujet pour nous de fierté, c'est un privilège, mais n'oublions pas que comme c'est son œuvre, ça implique qu'on soit quand même dans l'humilité, la disponibilité, l'obéissance, je dirais, et la patience aussi. C'est son œuvre. Donc, on est envoyé. Donc, en mission, nous aussi. Et c'est une mission vraiment de la plus haute importance. Hein, je dirais, mission spéciale pour chacun de nous. Et on doit se considérer comme des agents spéciaux. Eh oui. Hein, choisir, recruter pour mission spéciale. Alors, est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous êtes équipé? Est-ce que vous avez le bon équipement, surtout? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes sûr aussi que votre mission va réussir? Eh oui. Vous savez, moi j'aime bien les films d'espionnage, j'aime bien, bon, notamment James Bond, 007. Bon. Parce que c'est toujours conflit, situation inimaginable au niveau international. Il faut quelqu'un de spécial. On est prêt à mettre tous les moyens pour qu'il réussisse. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, alors, c'est, avant de partir, l'agent spécial est en l'équipe de tous les gadgets hyper sophistiqués, vous savez, tout a un autre emploi, que ce soit c'est la cigarette, c'est la montre, c'est le téléphone, c'est les chaussures, même la voiture, elle se transforme en char d'assaut ou en fusée, enfin bon. Quand on regarde le film, on dit toujours, bon, à quel moment il va utiliser tel gadget qu'on a vu au début et comment il va l'utiliser. Bon, là, on est dans la fiction, mais ça veut dire que par imagination, une situation humainement impossible, on peut la rendre possible parce qu'on a pris des agents spéciaux super équipés. Ok. Maintenant, si on fait un parallèle avec la mission de Jésus. mission est venue, Jésus est venu sauver l'humanité en péril. Bon. C'était mission humainement impossible. Et Jésus est pourtant réussi sans équipements spéciaux. C'était pas dans la fiction, puisque ce que Jésus a fait, ça change la vie de chaque être humain. Hein, donc, et c'est du concret. Donc, revenons un peu sur la mission de Jésus, voyons un peu, qui était envoyé spécial du Père. Il a d'abord eu l'envoi en mission. Dieu a dit « Qui enverrai-je ?» Et Jésus a dit, le Fils bien-aimé du Père a dit « Voici au Père pour faire ta volonté. » Pour venir, il a dû endosser, bon, excusez la comparaison, mais une combinaison très très spéciale dans laquelle il s'est senti à l'étroit, puisqu'il a dû mettre de côté toute sa gloire, et il a pris chair, il s'est mis dans notre peau, il s'est incarné, pour venir donc, parmi nous. Il s'est fait chair et l'habiter parmi nous. Et il va vivre la vie de tout juif de l'époque. Il va vraiment s'identifier à chacun de nous. À tel point que quand il va dire « Je suis venu du ciel », il va dire « Non, non, on te connaît, t'es le fils du charpentier », on ne le croira même pas. C'est-à-dire qu'il s'est tellement identifié à tous ses semblables qu'on l'a pris pour un juif comme tout le monde. Et seulement l'ennemi est là, et l'ennemi va tout faire pour empêcher sa mission. Et on sait comment, eh bien, il va le faire chuter, Jésus va être tenté en toutes choses, c'est vrai, il ne va jamais pécher. Et quelles sont les armes qu'il va utiliser? Face au menteur, il va utiliser la vérité de la parole de Dieu. Face à celui, le prince des ténèbres, il va utiliser la lumière de la parole de Dieu. Face à celui qui cherche à diviser, à mettre la haine dans les cœurs, il va utiliser l'amour de Dieu. Toutes les armes qu'on connaît de Jésus. Et on sait que sa mission, donc, elle va le conduire à la croix. Où là, par amour, il va vraiment donner sa vie pour chacun de nous, pour nous libérer de tous ces liens qui nous ont opprimés. Il va payer le châtiment qui est à notre place. Bon, on connaît tout ça. Et avant de rendre son dernier souffle, il dira « Tout est accompli. Tout est accompli. Mission accomplie. » Apparemment, échec total de la mission de Jésus. Triomphe apparent de Satan. Mais si Satan avait su, il n'aurait jamais mis Jésus en croix. Parce qu'en clouant Jésus sur la croix, en fait, il s'est détruit lui-même. Il a détruit toute autorité qu'il avait. Il a détruit tout pouvoir. Il a tout perdu. Vous vous rappelez Colossiens 2,14, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé, en le clouant à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, en les donnant spectacle, quand il les a traînés en cortège, après sa victoire à la croix. Donc, Satan est vaincu. Aucune force ne peut nous enchaîner. Nous sommes libres. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon. Et cette bonne nouvelle, Dieu veut qu'on la proclame. D'accord ? Il veut qu'on proclame et surtout aussi qu'on la manifeste en libérant tous ceux qui sont captifs et en l'autorité au nom de Jésus. Et bien sûr, mais pas par notre pouvoir. Ça, c'est la mission. Maintenant, revenons un petit peu au texte qu'on a lu. Est-ce que ça ne vous a pas étonné le peu d'équipement que Jésus donne à ses disciples avant de les envoyer? Un bâton, une ceinture, une paire de sandales. On est loin des équipements de 007. Bon, ça pourrait être minimum, c'est minimum. Notez que Matthieu et Luc ne parlent même pas du bâton ni des sandales. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, les disciples auraient été invités à partir tels qu'ils étaient. C'était leur tenue normale. Tous les juifs avaient la ceinture et le bâton, pratiquement. Et il leur dira, prenez pas de rechange non plus. Autrement dit, vous partez comme vous êtes. Bon, c'est vrai qu'il les a quand même pas envoyés, pour 6 mois à des milliers de kilomètres, c'est vrai. C'est dans la région. D'accord. Mais le principe est le même, c'est de vous encombrer pas inutilement. J'ai choisi hier un reportage, certains l'ont peut-être vu. Il y a ce jeune là, Vianney là, qui est parti de la baie de Somme, il va en Espagne, à pied, il va faire 5000 km. Il a une petite carriole au moment, et minimum. Et il se nourrit de ce qu'il cueille au bord de la route. Les fruits, il prend l'arrache, les fers. Bon, il a déjà fait des milliers, je ne sais plus combien, 500 km. Et il dort. Bon, il profite de la nature, en fait. Il est parti avec deux fois rien. Bon. Ah oui, là, ça vous fait rire quand vous voyez l'image, là, parce que pensez aux préparatifs de vacances. Quand on part en vacances, on emmène toujours des fois que, des fois qu'on manquerait, et on rajoute ceci, bon. Même un week-end, des fois. Le coffre, il est plein, la voiture. Bon, on n'a pas fait tout ça, on revient, on n'a pas utilisé la moitié, mais on ne sait jamais, si on manquait. Donc on est loin du bâton de la ceinture, et je dirais de la paire de sandales. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir avec rien, attention. Les directives de Jésus, on va le voir, elles ont quand même, bon, on peut en tirer quand même des enseignements. Bon. D'abord, ne pas s'encombrer inutilement, j'ai dit. Ensuite, pas de tenue spéciale, comme vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes appelé à rencontrer des gens qui sont habillés comme vous, vous êtes appelé à rencontrer des gens qui vivent comme vous, donc en fait, vous allez vivre leur vie, vous allez être accueillis par eux, de leur hospitalité, si vous voulez. On partage le quotidien des gens, et c'est ce qu'a fait Jésus pendant sa vie publique. Donc, en tant qu'envoyé, on n'est pas là avec tout le décorum d'un ambassadeur avec des gardes du corps. On est comme tout le monde, d'accord. Et pas de change, c'est-à-dire on fait confiance en l'avenir et puis bon, on reste ouvert à l'imprévu, mais Dieu va pourvoir, on fait confiance. Bon. Et donc on comprend que ce n'est pas les équipements qui importent quand on est envoyé en mission par Dieu. Dieu nous prend tel que nous sommes, avec, nos qualités et nos défauts, avec nos richesses et nos manques en fait, tel qu'on est. Rappelez-vous comment Jésus a recruté ses premiers disciples. C'était des gens simples, comme tout le monde, hein, pêcheurs même pour beaucoup, au deux sens du mot, finalement. Et il leur a dit « Suivez-moi », et quitte en tout, ils le suivirent. Ils ne se sont pas inquiétés qu'est-ce qu'on va mettre dans nos valises. Ils ont tout laissé, la barque, le père et tous les filets, et ils sont partis. Donc on a besoin de retrouver un petit peu, je dirais, ce cœur confiant et disponible, en fait. Quand Dieu appelle à son service, il nous prend tel qu'il est, c'est lui qui fait les valises, hein. Et il va mettre dans les valises qu'est notre cœur, en fait. Qu'est-ce qu'il va mettre? Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour les gens perdus. Il va mettre beaucoup de sensibilité, d'obéissance à son Saint-Esprit. En fait, voilà ce que Dieu veut mettre en fait, dans notre cœur. Et ce qui compte, c'est lui, c'est la motivation du cœur. Et on s'aperçoit que souvent le plus difficile, c'est de le laisser agir. Parce que souvent, on voudrait faire à notre façon, on voudrait que Dieu fasse comme nous on voudrait. Donc Dieu veut se servir de gens ordinaires, on dit, pour des mots, hein, qui disposent que de moyens ordinaires. Cela étant dit maintenant, on va revenir sur le bâton, on va revenir sur la ceinture et la paire de sandales, parce qu'on peut donner une signification spirituelle. Attends, hein, et c'est quand même intéressant de lire les choses de cette façon-là. D'abord, voyons le bâton. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait des randonnées, on aime bien quand on marche à l'aventure avoir un bâton à la main. Ça donne, je ne sais pas, on est content. Moi, j'aime bien avoir mon bâton. On s'appuie dessus éventuellement quand ça grimpe. On tape dans les fourrés. Enfin, on a un bâton à la main. Le berger a son bâton, parce qu'avec son bâton, il va ramener la brebis qui s'éloigne un petit peu. Éventuellement, il va chasser des prédateurs. Il va se défendre. Enfin, on voit le berger, il a son bâton. Bâton de berger. C'est pas un saucisson. Donc, qu'est-ce que Moïse avait à la main quand Dieu l'envoyait en mission? Il gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et rappelez-vous la scène, il voit un buisson qui s'éteint pas, il s'approche, et donc du sein de ce buisson, Dieu va l'envoyer en mission pour libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Mission extraordinaire. Et comment réagit Moïse? Ah, qui suis-je pour aller trouver Pharaon? Et s'il demande qui m'envoie, que dirais-je? Et Moïse, à l'état d'excuse, il se retranche derrière ses questions. Bon. Chaque fois, Dieu rassure, hein, et il lui dit, je serai avec toi, mais ça ne suffit pas. Alors Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as à la main? Et bon, il va dire, prends ton bâton, et il va déjà transformer, vous savez, le bâton en serpent. Il montre que Dieu, il est capable de transformer un bâton en serpent, déjà. Mais, on appelle ça suffit pas. Et alors, il va lui dire, Exode 4, verset 17, je vous lis. Hein. Dieu dit à Moïse, tu prendras ce bâton, donc que je vais te transformer en serpent, et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Et on sait bien, quand on lit les événements qui se sont passés, Dieu s'est servi du bâton de Moïse et d'Aaron, hein, parce que parfois c'est Aaron qui prend le bâton, et pour que... dans les chapitres 7 à 12, les plaies d'Égypte, chaque fois, suite à l'intervention d'Aaron et de Moïse avec le bâton, comme ils ont obéi à ce que Dieu disait, le phénomène surnaturel, le miracle, s'est produit. Lors du passage à la mer Rouge, en Exode 4:16, l'Éternel dit à Moïse, « Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, et les Israélites la traverseront à pied sec. » Et c'est ce qui s'est produit. On peut illustrer quand ils arrivent à Réphidim. Le peuple cherche à boire, ils ont soif, il n'y a pas d'eau. Ils prennent Moïse à partie, et Moïse va voir Dieu, et Dieu lui dit, Exode 17:5, « Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va, tu frapperas le rocher, de l'eau jaillira, et le peuple en boira. » Donc chaque fois que Moïse et Aaron se sont servis de leur bâton au nom de Dieu, en obéissant à Dieu, Dieu agit avec puissance. C'est un peu comme si le bâton était devenu un sceptre entre les mains d'un roi puissant. Vous voyez, le roi tend son sceptre, tout le monde s'incline, l'autorité du roi. C'est un petit peu, le bâton était entre les mains de Moïse et d'Aaron comme le signe de la puissance de Dieu face à Moïse, face à Pharaon. Pharaon aurait dû s'incliner face à ce bâton tendu de la part de Dieu. Mais en fait, Pharaon endurcit son cœur. Mais attention, ça veut dire qu'avoir le bâton en main, on s'empare de l'autorité que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. D'accord ? Mais le bâton n'a aucun pouvoir. Et là, je tiens à le souligner, et là, je fais une parenthèse. Vous savez qu'on est dans un monde, dans le temps, il y avait les idoles faites de bois. Bon, hein, c'est moins le cas maintenant, mais il y a toujours les superstitions. Les gens, ils disent, en fait, je touche du bois. Pourquoi ? Tu vas dire, non, mais je touche du bois. Bon, je crois que je touche du bois. En fait, là, en réalité, ce réflexe vient effectivement du bois de la croix de Jésus. Si un bois qui aurait dû porter bonheur, c'était le bois de la croix de Jésus, parce que c'est au pied de cette croix que chacun trouve le bonheur, à condition qu'on a compris que Jésus a donné sa vie sur cette croix, qu'on se repente, qu'on demande pardon, bon, il y a toute la démarche de repentance à faire, et bon. Et là, effectivement, c'est là qu'on a trouvé le bonheur, mais au pied de la croix. Mais attention, le bois n'a aucun pouvoir. Si vous donnez un pouvoir à la matière, c'est de la magie, et ça, c'est en abomination devant Dieu. Bon, je ferme la parenthèse, vous comprenez. Donc, ça, c'était Moïse avec son bâton. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui a été appelé à une mission extraordinaire. Il fallait libérer le peuple de l'oppression des Madianites. Et là, vous avez compris, je parle de Gédéon. Gédéon, c'était comme qui dirait un pauvre paysan qui était en train de battre son blé pour le mettre à l'abri. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît, dans les Juges chapitre 6. Il lui dit, « Salut vaillant et héros, l'Éternel est avec toi. » Réaction immédiate de Gédéon, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi on connaît une telle situation désastreuse, en fait, et affligeante ?» Et l'ange lui dit que précisément les choses vont changer, parce que c'est lui que Dieu vient de choisir pour délivrer le peuple de l'oppression des Madianites. Et comme Moïse, Gédéon, il va commencer à émettre des réserves. Qui suis-je ? Eh oui. Gédéon se voit mal dans la peau d'un agent spécial envoyé pour une mission spéciale. Il se voit pas dans la peau d'un 007. Il se voit dans la peau d'un 000. Triple zéro. Premièrement, je suis le plus petit de ma famille. Deuxièmement, ma famille est la plus petite. Et troisièmement, je suis le plus petit de la tribu Manassé, la plus petite. 3-0, triple zéro. Voilà. Mais immédiatement, donc, il va réclamer un signe. Et il veut des preuves. Il s'empresse à aller préparer une offrande pour accueillir son visiteur qui vient de la part de Dieu. Et il est dit que, en fait, donc quand il revient, ce visiteur, il avait un bâton à la main, il va toucher l'offrande du bout de son bâton et l'offrande va s'enflammer. La flamme va jaillir. Cette flamme qui jaillit, c'est la manifestation de la présence de Dieu qui est là. Dieu approuve d'une part l'offrande de Gédéon, manifeste qu'il est là, et en fait, il va, quelque part, il va tout purifier, c'est un holocauste qui va être devant ses yeux. Gédéon va être terrifié, il va construire un autel donc à Dieu, à la suite de cette visite. Mais je vous parle de cette scène parce que là, on voit, là, c'est Dieu qui a le bâton en main. Et Dieu, avec le bâton, il s'en sert pour mettre le feu, je dirais, rendre visite de sa présence, et surtout, je dirais, il y a toute une préfiguration là. À travers cette scène, il y a Dieu qui va toucher le monde avec le bâton qu'est la croix de Jésus. Et du bout de la croix de Jésus, il va mettre le feu dans les cœurs des gens. Il va purifier le cœur des gens. Il va vraiment. Il y a tout un symbolisme là qu'on peut voir à travers cette scène que Gédéon a vécue, mais où le bâton c'est Dieu qui tient et Dieu a le bâton de Dieu, c'est la croix de Jésus. En fait. D'accord ? Donc avoir son bâton à sa main, là, c'est être le bras agissant de Dieu. Pour toucher les cœurs, les rendre sensibles à son amour, et communiquer la faveur de Dieu et les bienfaits de l'œuvre de Jésus à la croix. Et que dire alors? L'espérance de Jacob, encore où les questions de bâton. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, dont le nom signifiait le menteur, celui qui supplante en fait. Et on sait comment, bon, dès le départ, il a déjà raflé le roi d'Aînesse par un plat de lentilles. On sait comment il a trompé, il a pris la bénédiction de son frère Ésaü en le trompant. Enfin, bon, hein, après, il est allé chez Laban. Bon, Laban, à son tour, l'a trompé, puisqu'il a fait épouser Léa, lui épouser Rachel. Bon, enfin, c'était que des mensonges. Puis, alors, je pastiche ça, mais quand il décide de revenir, eh bien, sur le chemin du retour, il va faire une expérience qui va complètement le changer. Ça se trouve en Genèse 32, et là, on va lire ensemble ce passage. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui a l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Donc au petit matin, quand Jacob se réveille, il n'est plus le même. Maintenant, il ne s'appelle plus Jacob, il s'appelle Israël. Et il a changé de comportement. Lui qui s'appuyait toujours sur ses petits stratagèmes, sur ses ruses pour s'en sortir, vous savez, pour avoir du succès dans ses entreprises, il a appris qu'il ne devait plus s'appuyer que sur Dieu. Et chaque fois qu'il s'est mis à marcher, il devait s'appuyer sur un bâton, et chaque fois qu'il s'appuie sur le bâton, ça voulait dire « appuie-toi sur Dieu ». Vous comprenez? Et il est surprenant de retrouver Jacob à la fin de sa vie. L'auteur du livre des Hébreux nous le décrit ainsi, en Hébreux 11, 21. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Donc on peut dire qu'avoir notre bâton en main, c'est aussi notre nécessité de nous appuyer sur Dieu, comme Jacob en fait, et d'avoir ce cœur d'adorateur à l'égard d'un Dieu toujours présent et qui agit selon ses plans. La ceinture. Voyons la ceinture maintenant. Bon, à l'époque, c'est vrai que les hommes s'habillaient, ils avaient des longues tuniques, et c'était nécessité de mettre une ceinture si on ne voulait pas se prendre les pieds en marchant, parce que de marcher sur des bords de la tunique. Donc la ceinture permettait de ramener les bords, de les relever un peu, et pour marcher plus facilement. Et c'est aussi, vous savez, à la ceinture que le soldat mettait son épée. Donc sachant cela, on comprend mieux maintenant quand les citations qui sont faites là, que je vous ai notées, on comprend l'expression. En Exode 12-11, par exemple, avant de partir donc pour manger la Pâque, les reins saints. Les reins saints, ça veut dire vous devez être prêt à partir en tenue pour une longue marche. Mais vous avez la ceinture, pour ne pas vous prendre les pieds dans votre tunique. En 1 Roi 18-46, il y a Élie qui est monté donc, sur le mont Carmel pour demander à Dieu que la pluie vienne. Après des années de sécheresse, il va prier Dieu pour qu'il pleuve. À cette reprise, il va envoyer son serviteur voir s'il n'y a pas de nuage à l'horizon. Et la septième fois, le serviteur revient, « Ah, j'ai vu un petit nuage comme la largeur d'une main. » Élie, c'est à ce moment-là que sa prière est exaucée. Et tout de suite, le ciel va se couvrir et noircir et une pluie abondante qui va arriver. Et il est dit, en 1 Roi 18, 46, « Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins. » Il courut devant le char de roi Acab jusqu'à l'entrée de Jisréel. S'il avait passé sa ceinture, il n'aurait pas pu courir. Et je ne sais pas s'il a couru jusqu'à Jisréel, mais entre du Mont Carmel et Jisréel, il y a 27 km quand même. Hein. Bon, à mon avis, c'est l'esprit qui a dû le transporter. Toujours est-il qu'il a serré sa ceinture avant de se mettre à courir. Et de roi Acab, c'est Élisée. Là. Élisée vient d'apprendre que la femme qui l'a hébergée à plusieurs reprises vient de perdre son enfant. Son enfant est décédé. Et il envoie son serviteur Géasi pour prier pour que l'enfant donc revienne à la vie. Et Élisée va dire à Géasi, c'est-à-dire 2 Rois 4:29, « Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. » Là, il fait mention du bâton, entre parenthèses. Et le bâton n'avait rien de miraculeux parce que Géasi va aller, Géasi va poser le bâton, il ne va rien se produire. Ensuite, lui va y aller. Bon, mais là, je m'arrête simplement. Il a dit « Mets ta ceinture ». Ça veut dire, voilà, tu te mets en route maintenant. Hein, je m'arrête simplement au mot « ceinture ». Mets-toi en route. En plus, bon, le kiné que je suis, retraité mais kiné toujours, hein, je peux vous vanter les bienfaits de la ceinture lombaire. Hein. Une ceinture lombaire, ça aide quand même à maintenir les vertèbres en place. Hein, ça vous soulage quand vous avez le dos qui est fatigué. Ça vous permet de soutenir des efforts, de faire soulever des charges. Ça a beaucoup d'avantages. Ça, c'est une chose. En plus, cette ceinture, elle est au niveau des reins. Et vous savez que les reins, souvent, il y a une correspondance entre le rein et la volonté, le pouvoir, le pouvoir de décision, l'énergie. Il y a une correspondance, en général. Ça veut dire que mettre sa ceinture au niveau des reins, ça veut dire donc s'armer de volonté, d'énergie, de courage, en fait. Lorsque Pierre écrit en 1 Pierre 1:13 « Saignez les reins de votre esprit », il signifie donc « Tenez votre esprit en éveil », c'est vrai, « Soyez vigilants, prêts à réagir, ne vous laissez pas distraire », et un peu comme si « Resserrez aussi vos pensées », et vos pensées qui vont dans tous les sens là. Rassemblez-les, parce que sinon, vous allez vous laisser distraire, vous allez vous laisser diriger à droite à gauche. Vous savez, un petit peu comme... parce que ça veut dire, ne faites pas de compromis avec tout ce que vous entendez. Hein. Serrez vos pensées avec cette ceinture de la vérité. On va en parler tout après. Hein. Donc ça veut dire que... et Pierre en parle, mais vous savez pourquoi Pierre en parle, en fait. Moi, si je vous dis que Pierre avait une ceinture, vous allez dire pourquoi. Si vous vous rappelez, le passage d'Actes 12:8, Pierre est en prison. L'ange vient le libérer. Et l'ange va lui dire... Lève-toi, allons, mets ta ceinture, attache tes sandales, mets ton manteau sur moi. Là encore, Pierre, il avait une ceinture. Pierre connaissait aussi l'avantage de ma ceinture. Bon. Donc, mettre sa ceinture, c'est prépare-toi à partir, il est dit. Hein. Et si on fait référence à Éphésiens 6, les armes spirituelles, on parle de la ceinture de la vérité. Et on comprend que cette ceinture nous permet de rester sur le bon chemin, dans la vérité, et surtout de ne pas se laisser détourner à droite, à gauche, ne pas se prendre dans les franges, je dirais, de toutes les pensées qu'on entend, toutes les opinions. Faut pas que notre esprit, faut pas que ça flotte. On sait où on va. Hein. On s'y enferme. C'est la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Alors parlons des sandales. Bon. Les routes étaient caillouteuses, les routes étaient poussiéreuses, et il valait mieux quand même, pour protéger ses pieds, avoir des sandales aux pieds. Et en plus des sandales, c'était vite enlevé, vite mis, parce qu'en général, on arrivait quelque part, il y a souvent un serviteur qui venait verser un peu d'eau, les pieds étaient propres, les chaussures allaient vite remises, c'était pratique. Lorsque les Hébreux se sont préparés à quitter l'Égypte, ils ont immolé l'agneau, et l'ordre avait été donné, donc Exode 12:11, vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales au pied, le bâton à la main. On a retrouvé, on a tous les éléments, tout l'équipement, oui. Et les sandales, elles étaient nécessaires, donc, parce qu'ils allaient traverser le désert, le sable était chaud, hein, marcher pieds nus, ça ne devait pas être évident, c'est vrai. Ne pas se faire mordre peut-être par les serpents, les scorpions. Mais aussi, dites-vous une chose, c'est que c'est un peuple qui était libéré. Et souvent dans la Bible, un peuple qui part en esclavage, qui est prisonnier, en général, il est désigné comme un va-nu-pied, et on le représente toujours les pieds nus. Rappelez la parabole du fils qui réclame sa part d'héritage, qui va dilapider son bien, et puis le jour où il n'a plus rien, il meurt de faim, et il veut retourner chez son père, et il revient. Son père l'attend, l'accueille avec joie, et tout de suite va donner des ordres pour qu'on prépare un festin. Il est tellement heureux, j'ai retrouvé mon fils qui était perdu, Lévi. Et surtout, il va donner des directives pour redonner à son fils sa dignité de fils. Il va lui dire, dans Luc 15:21, « Donc allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le-lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de ses sandales. » De sandales, chaussez-le de sandales. Et là, on voit que porter des sandales, Une fois, j'avais fait un message sur les chaussures. C'est intéressant, hein, les chaussures ont beaucoup de sens dans la Bible. Mais là, c'est retrouver le statut de fils et d'homme libre, en fait. Et c'est pouvoir marcher en toute liberté, mais aussi, arme spirituelle, les chaussures, du zèle, c'est marcher avec zèle. Hein. Éphésiens 6 nous parle aussi des chaussures que donne hein, le zèle à porter la bonne nouvelle. Donc, chaussons ce zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et Dieu fait toujours retentir la même question, aujourd'hui encore, qui enverrai-je ? Bon. Ça, il veut associer l'homme à son œuvre, qui enverrai-je ? Donc, pour parler à son peuple, exhorter à revenir, il a appelé Esaïe, bon, hein, vous relirez toute la vocation d'Esaïe, il a purifié ses lèvres, Esaïe a dit, voici, je suis prêt, envoie-moi. Bon. Pour libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte, il a envoyé Moïse, on en a parlé, ça n'a pas été évident, mais Dieu l'a convaincu qu'il sera avec lui, et Moïse est parti. Pour libérer le peuple de l'oppression des Madianites, Dieu a choisi Gédéon, là encore, ça n'a pas été évident, mais Dieu a donné des preuves à Gédéon, et Dieu a donné la victoire à son peuple, avec vraiment une armée, 300 hommes contre des milliers. Bon, on a vu la main de Dieu à travers le ministère de Gédéon. Et quand il a fallu sauver l'humanité en péril, eh bien, Dieu a dit « Qui enverrai-je ? » Et le Fils a répondu « Voici, ô Père, pour faire ta volonté. » Jésus est venu accomplir cette mission, on en a parlé, tout est accompli, mission réussie, et tout le monde peut profiter de ce salut offert gratuitement. Bon. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on doit transmettre. Jésus a envoyé ses disciples avec minimum d'équipement, c'est-à-dire même pas d'équipement, sinon d'un cœur bien disposé, mais surtout il va aussi leur donner une parole, une promesse réconfortante. Et ça c'est en Matthieu, dans Matthieu 28, 20, il va ajouter à tout ce qu'on a lu déjà en Marc, il a dit « Voici, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire que toute la puissance, toute l'autorité du chrétien qui est envoyé en mission par Dieu, en fait, elle réside dans cette présence de Dieu à nos côtés, et l'action agissante du Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est important de le savoir. Hein? Donc ça fait écho à ce que disait Ruth, effectivement, nous, on n'est pas grand-chose, mais Dieu, à travers nous, va agir. Et oui. Et on a lu en Matthieu 6, 13, il chassait beaucoup de démons, guérissait malades en les oignant d'huile. Et l'huile, ici, hein, particulièrement encore dans ce passage, vous savez que l'huile, c'est un médicament qu'on utilisait à l'époque pour soigner beaucoup de choses, beaucoup de bobos, bon, on mettait de l'huile. Mais dans la Bible, l'huile, c'est un des symboles pour l'action du Saint-Esprit, en fait. Et là, il faut vraiment voir l'onction de l'Esprit qui agit, l'Esprit qui met à disposition les bienfaits que Jésus a acquis pour nous par sa mort à la croix. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand on prie pour les malades, on a prié ce matin encore pour tous ceux qui avaient une maladie, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va agir en fonction de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Bon, et ça, il faut savoir, je dirais, le manifester, bon, on le fait entre nous, entre frères et sœurs, mais aussi même auprès de ceux qui n'ont pas cette foi, mais qui ont besoin d'avoir la main de Dieu qui les guérit. Donc, le Saint-Esprit représente la puissance. Hein. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, cette mission de Jésus, donc, c'est notre mission. Hein. Dieu est toujours, qui enverrai-je pour dire aux gens combien je les aime, qui enverrai-je pour dire aux gens, effectivement, que je veux les sauver, les libérer, hein, leur donner gratuitement mon salut, et qui enverrai-je pour collaborer avec moi. Ça, c'est une question de Dieu. Quelle est notre réponse, bien évident. Et là, ça nous concerne chacun particulièrement, qu'est-ce que je vais répondre. Et c'est vrai que spontanément, souvent, on se trouve qu'on n'est pas grand-chose. Hein. On est comme Gédéon, on est triple zéro, 0, 0, 0. Bon. Ah oui, ça, c'est chiffre de Dieu, c'est normal. Non, je plaisante. Nous, on devrait être 006, normalement, en tant qu'homme. Mais avec Dieu, on devient 007. En fait, il faut comprendre, et ça, je l'ai dit, hein, je redis simplement, c'est pas une question d'équipement, c'est une question d'un cœur bien disposé. D'accord ? Quand Dieu envoie, Dieu équipe, mais il équipe celui qui a répondu oui à son appel. C'est logique. Et ça, la réponse, c'est la part que l'on doit apporter. Parce qu'on oublie, je redis que c'est son œuvre, et en fait, c'est lui qui agit, et au travers de nous. Donc, faisons-lui confiance. Et être disponible, c'est dire présent. Et dire présent, ça veut dire, oui, attends, je mets mes chaussures, je mets ma ceinture, je prends mon bâton et je vais où tu m'envoies. Mais le malin va tout faire, il va dire, non, tu n'es pas capable, c'est pas toi. Le malin, il va nous mettre à l'esprit que non, on n'est pas l'homme ou la femme de la situation. Ça, c'est le malin. Et là, simplement, on va relire 1 Corinthiens 1. Les critères d'embauche de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein. Quand un chef d'entreprise, il embauche, il veut savoir les qualifications et tout ça. Dieu, non. Dieu, quand il embauche, 1 Corinthiens 1, 26, 31, ne considérez faire que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est un peu comme si Dieu, tous ceux que la société rejette comme non compétents, non qualifiés, Dieu, c'est ceux-là qui l'embauchent. Hein, à condition. Donc les questions que Dieu pose, c'est parce que, est-ce qu'il prie bien? Est-ce qu'il prêche bien? Est-ce que il a une bonne éducation? Non, c'est est-ce que c'est un homme de foi? Est-ce qu'il me fait confiance? Hein, est-ce qu'il cherche pas à être bien vu, mais est-ce qu'il sait souffrir s'il le faut? Enfin, et en fait, si on veut tout résumer, c'est est-ce qu'il a un cœur de serviteur? C'est ça qui intéresse Dieu. Et serviteur, c'est l'exemple du maître, à l'exemple de Jésus. Hein. Jésus qui, en fait, hein, il nous est dit, il est venu non pour être servi. Et il avait droit, il aurait pu être servi. En tant que fils de Dieu, il aurait pu être servi. Mais il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Rappelez-vous le lavement des pieds, et il dira, vous aussi, en fait, eh bien, faites comme j'ai fait. Cœur de serviteur. Mélodie. Voilà. Tout est dit, une image, tout est dit. Donc, ce qu'il nous faut, c'est... rentrer dans cette relation, il faut tout abandonner entre les mains de Dieu. Et ça, c'est important, même si c'est peu de choses. Et là, je vais terminer par... Parce que si on lit la suite du récit qu'on a lu, les disciples, ils sont revenus, ils étaient tout excités. Rendez compte, les démons nous étaient soumis. Ça aurait pu leur prendre la tête. Maintenant, les démons nous obéissent. Jésus dit, attendez, vous avez encore des choses à apprendre. Et là, tout de suite après, il va y avoir donc, ce miracle de la multiplication. Jésus les met au défi. Il y avait des milliers de personnes... Vous avez faim, donnez-leur à manger. Ah ben on peut pas, il faudrait. Bon. Alors, Jésus va poser une seule question. Combien de pain avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Façon de dire, donnez-moi ce que vous avez. Bon, on connaît la suite. Hein, il y avait 5 pains de poisson. Bon, et le miracle était tel qu'il y avait 12 corbeilles en plus de reste. En fait. Vous savez, il y aurait eu un pain, un poisson, c'était pareil, hein, attention. C'est pas parce qu'il y en avait 5 et 2, non. Il y aurait eu que la moitié un morceau de pain et la moitié un poisson. Le miracle était pareil. Ça veut dire que la leçon que Jésus a enseignée, c'est qu'il suffit de peu de choses entre les mains de Dieu pour que le miracle se produise. Mais le peu, il faut le donner. Ça, c'est ça qui est important. Et Dieu va agir avec ce peu, même si parfois on a l'impression que c'est pas spectaculaire et c'est banal, c'est ordinaire. Et Dieu, sachez-le, va toujours nous étonner. Dieu, il agit toujours, même dans des moyens très ordinaires. Dans la mesure où il faut qu'on soit là où il veut qu'on soit, il faut qu'il y ait cette qualité de relation avec lui. Il va se servir du peu qu'on est, du peu qu'on va dire, du peu qu'on va faire. Parfois, simplement du fait qu'on est là, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Mais Dieu, il agit. Parce que des fois, ça arrive, on va à une soirée, bon, on voudrait témoigner, on y va pour en témoigner. Puis on rentre le soir, on est déçu, on n'a pas pu. Mais détrompez-vous, le fait que vous y soyez allé, tu as ce qui a été partagé, vous ne pouvez pas savoir comment ceux qui vous ont invité ont réagi. En fait, vous avez apporté plus en y allant et des fois en disant rien, hein, et Dieu sait ça. Dieu sait. Tu sais, il y aura beaucoup de témoignages à donner. Et là, je vais simplement terminer par un témoignage qui va en dire beaucoup plus que de longs discours. C'est un homme qui s'avance à la fin d'un culte pour donner son cœur à Jésus. Donc, le pasteur, tout content de cette démarche, il vient le trouver tout de suite à la fin. Et puis là, le pasteur, il avait fait bon message, il a passé du temps préparé, vous savez, il a fait des effets oratoires et tout ça, puis il voulait savoir quelle était la phrase qui avait accroché, qui l'avait touché. Et quelle n'a pas été sa surprise, en fait, cet homme, il dit, écoutez, je me suis avancé parce que c'est la personne qui était à côté de moi, quand elle s'est mise à chanter les louanges de Dieu, Elle a chanté avec tellement de joie. Elle était tellement contente que je me suis dit, ce Dieu, pour qu'elle chante, c'est quelqu'un de réel dans sa vie. Moi, je veux connaître ce Dieu-là. Pas plus. Bon, le pasteur. Alors, vous savez, j'ai passé du temps pour préparer le message, vous savez. Bon, je fais des diapos. Ça fait ça. Dieu, il agit au-delà de tout ça. Je dis, on ne sait pas. Et alors, mais c'est un encouragement, ne soyez pas découragés, parce que des fois, on a l'impression, hein, détrompez-vous, Dieu, il est là. Bon, vous ne voyez pas. Vous êtes ordinaire, c'est banal, c'est le quotidien. Mais Dieu, il agit. Hein. Non, c'est vrai, faut, donc, soyez encouragés, puis il faut toujours. Eh ben, hein, faut rentrer dans cet envoi en mission, puis répondre présent. Bien demandant à Dieu de nous façonner ce cœur de serviteur. Seigneur, bien, notre présence dans ce lieu ce matin, c'est déjà un peu la preuve, Seigneur, que nous voulons répondre à cet appel que nous avons reçu, mais un appel à te suivre déjà. Si on est là, c'est parce qu'on veut te suivre, Seigneur. Et on a expérimenté sur ce chemin qu'on prend depuis parfois des années déjà pour certains. On sait que c'est le bon chemin, Seigneur. On sait que chaque jour tu es là, on expérimente, c'est-à-dire ces moments privilégiés, ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de sérénité, Seigneur, parce que même dans l'adversité, on sait que tu es là, Seigneur. Mais ce qu'on vit, Seigneur, on ne veut pas le vivre que pour nous. Seigneur, on aimerait tellement que ces moments, encore comme ce matin pendant la louange, je voudrais qu'il y ait tellement de monde que l'on connaît qui soit là à partager ces moments. Seigneur. On aimerait, Seigneur, et c'est notre prière ce matin. Notre prière, c'est que tu touches les cœurs de ces personnes, que tu mets en contact, Seigneur, que ton Saint-Esprit arrive à les toucher, Seigneur. Mais pour cela, ben, donne-nous, Seigneur, ce cœur de serviteur. Qu'on sache être disponible, Seigneur, qu'on soit toujours conscient qu'on agit en ton autorité, c'est ton œuvre, Seigneur. Hein, ce bâton, c'est ton autorité, Seigneur. Hein, mais on va avoir aussi ben, cette ceinture de la vérité, parce qu'on veut être conforme à ta parole, Seigneur. Hein, et on veut, eh bien, Seigneur, avoir ses sandales, parce qu'on veut, on veut pas rester assis dans notre fauteuil, on veut aller, Seigneur, là où tu nous mènes, on veut le faire avec zèle. Seigneur, c'est notre désir. Et notre prière ce matin, c'est renouvelle en nous, Seigneur, ces dispositions de serviteur, Seigneur. Hein, c'est vraiment sur ce qu'on te demande. Et on te prie aussi, surtout, touche le cœur par ton sein de toutes ces personnes à qui déjà on a parlé, ces gens qu'on a contactés, à qui on a voulu, Seigneur, eh bien, partager vraiment cette joie de te connaître. Eh bien, on te prie que ton Saint-Esprit les amène à cette connaissance, Seigneur. Parce qu'il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut le faire, Seigneur. Mais il le fera à travers de nous, et parfois, à notre insu, par des moyens peut-être qu'on ne soupçonne pas, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on veut te dire, rends gloire, Seigneur. Et te demander encore de nous utiliser au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen.